Et donc, je vous invite à entendre deux textes très, très connus, j'espère. Le premier, certains le connaissent par cœur. Le deuxième, je ne sais pas si vous le connaissez par cœur, mais je sais que vous connaissez l'histoire. Donc, le premier texte, c'est le psaume 23. Alors, peut-être que vous le connaissez par cœur, certains d'entre vous. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher et près des eaux du repos, il me mène et il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires, tu parfumes d'huile ma tête et ma coupe est enivrante. Oui, le bonheur et la fidélité me poursuivent tous les jours de la vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Et puis dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, versets 1 à 14, voilà, le psaume 23, certains d'entre vous le connaissez par cœur, je pense à peu près. Hein. Et le passage de l'évangile de Jean, maintenant, vous le connaissez aussi très bien. Donc Jean 13, 1 à 14. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son manteau et prend un linge dont il était saint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite tu comprendras. » Pierre lui dit « Me laver les pieds à moi, jamais !» Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu ne pourras pas avoir part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs ». Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son manteau et se remit à table. Et il leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voilà, avant de revenir sur ces deux textes, je vous invite à prendre le cantique 302.
Thank you. servir. Jésus, si ta main me guide, je marcherai par la foi. Tout chemin sera limpide, tout travail sera pour toi. Je suis prêt pour la bataille, sa douleur et son effort. Je sais où tu veux.
Oui, nous voudrions tellement que ta main puisse nous guider à travers des choix difficiles, des sentiers difficiles à suivre. Oui, Père, aide-nous à être des témoins fidèles de ta parole et de ton amour. Amen. Voilà le psaume 23 et le lavement de pied que nous avons lu là résume tout le message de la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il y a cette image du berger qui reste quand même assez particulière. Nous sommes très habitués à cette image depuis notre enfance, évidemment, parce qu'à force de voir des images pieuses représentant Jésus en berger ou le berger devant ses troupeaux, etc., ça nous est extrêmement familier, finalement. Mais ce n'est pas si simple que ça. Le berger, c'est quand même quelqu'un qui est impur. Il ne faut pas l'oublier parce qu'il vit avec des bêtes. Déjà, rien que lorsqu'on sait que Jésus est juif, que tous les écrivains de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, sont juifs, ça commence déjà à poser un problème, précisément. L'autre chose, c'est que les bergers sont souvent des hommes un petit peu mystérieux, qui sont des gens isolés par rapport au reste de la population des villages ou des fermes. C'est-à-dire qu'ils partent le matin avec leur troupeau et ils rentrent le soir. Et toute la journée, ils sont absents. Et quelquefois même, ils sont absents pendant des saisons entières, lorsqu'il y a les migrations, les transhumances. Il y a les bergers qui partaient, par exemple, des basses Cévennes, par exemple, et qui montaient avec 2-3 jours de marche dans les hautes Cévennes, eh bien, ils partaient de chez eux, carrément, pendant 4, 5, 6 mois. Oui. Donc, il peut arriver que le berger, suivant les pâturages, évidemment, puisse partir pendant des saisons entières. Donc, c'est un homme particulier, déjà, un homme un petit peu mystérieux. Et pourtant, si on regarde de manière un petit peu différente qui est le berger et ce qu'il fait, eh bien, on s'aperçoit que les bergers, pas les bergers normaux, évidemment, il y a toujours des contre-exemples qui sont nombreux, ça va de soi, mais les bergers sont là pour nourrir le troupeau, finalement, pour les soigner aussi. Ce sont des bons, j'allais dire des médecins presque, des vétérinaires. Ils connaissent les herbes qui rendent malades, les herbes qui peuvent soigner une bête qui ne va pas bien. Dire, ils savent aussi un animal est mordu par une vipère ou autre, ils savent ce qu'il faut faire tout de suite, s'ils s'en aperçoivent, évidemment. Le berger, il guide le troupeau, il le guide au mieux. Il scrute le ciel, par exemple, pour dire, il ne faut pas aller à l'Adré, il vaut mieux aller à Lubac, parce que ce sera mieux ou ce sera moins bien, ou que sais-je encore. Et tel pâturage sera mieux pour les brebis que tel autre. Donc, ils vont guider le troupeau au mieux de leurs possibilités, évidemment. Mais surtout, c'est que les bergers ont aussi cette possibilité, parfois malheureusement, de combattre, de se battre contre les voleurs ou contre les fauves. L'image, là aussi, qu'on a peut-être tendance à perdre de vue, qui pourtant est d'actualité. J'ai rencontré des bergers dans les Pyrénées qui m'ont dit il faut faire attention parce que maintenant, les gens, ils arrivent avec des camionnettes, ils embarquent les brebis, ils remplissent la camionnette et ils s'en vont. Ils ne viennent pas faire que seulement un méchoui, mais on embarque parfois des parties entières de troupeaux. Et lorsqu'un fauve arrive, soit des loups, que ce soit des ours dans les Pyrénées, mais dans la Palestine dont on parle de l'Antiquité, il y avait aussi des lions, il ne faut pas l'oublier, des fauves de ce type. Lorsqu'un troupeau est attaqué, eh bien, il est complètement désorienté pendant plusieurs jours et très difficilement maniable pendant plusieurs jours. C'est un des très, très gros problèmes des attaques des fauves sur les troupeaux. Et donc, le berger se bat. Il se bat pour défendre son troupeau. Les témoignages de très vieux bergers que j'ai rencontrés quand j'étais enfant dans les Cévennes et qui me disaient qu'avant la guerre de 14-18, quand ils allaient garder les troupeaux, eh bien, leurs parents attachaient un couteau au bout du bâton pour se défendre contre les loups. Une histoire de l'ancien temps, on veut dire. Mais vous voyez, si je vous dis ça, c'est pour vous dire, lorsque les gens de l'Antiquité entendaient ces histoires de bergers, c'est ça qu'ils entendaient aussi. Ce n'est pas le berger bucolique, sympathique, qui va garder ses moutons en toute tranquillité. Ce n'est pas tout à fait cette image. Vous voyez, c'est un petit peu ambivalent, ce berger. Il est à la fois mystérieux parce que il est avec ses bêtes, il est dans la solitude des pâturages, et puis en même temps, il est celui qui est là avec ses moutons. Il est aussi celui qui va exhorter le troupeau, qui l'appelle, évidemment, et qui parle aux brebis. Il faut parler aux moutons, sinon ils ne connaissent pas la voix du berger, ils ont du mal à le suivre, et il faut connaître les travers des brebis, des choses comme cela. Je vous l'ai raconté ici ou là, parfois, c'est ces témoignages que j'ai de brebis qui venaient manger les châtaignes sèches que j'avais dans mes poches, carrément. Vous voyez, donc vous voyez arriver arrivé 7 ou 8 brebis, vous voyez, grang, et puis qui viennent fouiller avec leur museau dans les poches, carrément, vous voyez. Hein, parce qu'elles sont tellement gourmandes que quand vous leur présentez des châtaignes un peu sèches, alors là, c'est vraiment la fête au village. C'est comme si vous présentez un carambar à un écolier, quoi, un peu de choses près. Je veux dire, ça fait à peu près le même effet, si vous voulez. Mais il faut le savoir, ça, vous voyez, il faut vraiment le savoir. Il faut appeler les brebis par leur nom, quand elles en ont, ou par le langage auquel elles sont habituées, pour qu'elles comprennent effectivement qu'il y a une friandise qui les attend. Le berger parle aux brebis, précisément, et quand il leur parle, et ben, ça marche, parce que le berger a pour son troupeau de l'affection. J'ai jamais rencontré un berger dire du mal de son troupeau, enfin, sauf quand il était en colère, lorsqu'il perdait un peu le contrôle, ce qui peut arriver de temps en temps. Voilà, mais était effectivement cette image de cet homme mystérieux de l'Antiquité, quand même un peu particulier, je veux dire, mais qui est très très proche de ses brebis. C'est une image de Dieu. C'est une image de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a d'autres images de Dieu évidemment dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, mais il y a cette image du berger qui est intéressante. Et nous sommes un peu comme les brebis, avec nos qualités et nos défauts, je veux dire, effectivement. Et surtout, nous avons besoin de ce berger qui est là pour nous conduire vers des pâturages, pour nous ramener aussi au bercail, évidemment, dans la maison pour de longs jours, comme dit le psaume 23. Je reviendrai à la maison, voilà, l'Éternel qui est mon berger me ramènera, je reviendrai certainement dans cette maison. Sans doute le temple de Jérusalem auquel fait allusion l'auteur du psaume 23. Alors c'est vrai, si cette image du berger est assez fantastique, moi je la trouve très très belle. D'abord ça éveille en moi, vous l'avez compris, un certain nombre de souvenirs que j'ai vécu avec des moutons. Donc j'en vois des tas de choses. Je trouve que c'est une très belle image de voir le berger qui marche à la tête du troupeau, et de voir des troupeaux quelquefois considérables, de plusieurs centaines de bêtes qui suivent comme ça le berger. C'est tout à fait exceptionnel comme impression, et c'est une très très belle image. Très très belle image de Dieu qui est là, voilà. Et pourtant, nous sommes avec cette image de Dieu en deçà de ce qu'on pourrait dire de Dieu. Voyez, on en est en deçà, et cette image va prendre une autre dimension avec Jésus-Christ. Effectivement, Jésus s'inscrit dans cette vision du berger de l'Ancien Testament, et vous savez qu'il y a la parabole du bon berger dans l'évangile de Jean, puis il y a la parabole de la brebis perdue, etc. Donc il y a des références directes à cette image, à cette allégorie du berger. Mais lorsqu'on arrive dans des récits extrêmement tendus, comme les récits de la Passion, c'est le cas dans l'évangile de Jean, au chapitre 13 que nous avons lu, alors que nous sommes vraiment au début de la Passion, Jésus est là, tout à fait au bout de la révélation de son ministère terrestre, finalement, puisque dans quelques heures, l'aventure terrestre sera finie. Je veux dire, Jésus n'a plus rien à cacher. Jésus arrive au bout du dévoilement. Hein, souvent, Jésus dit, ne dites pas ce que je viens de faire, etc. Enfin bref, une sorte de mystère qui reste autour de Jésus, parce que tout au long de son ministère, Jésus dit des tas de choses, rencontre des tas de gens, agit, etc. Mais il faut qu'il y ait l'événement final de la passion et de la résurrection pour que la révélation soit pleine, en plénitude, finalement. Et là, nous sommes vraiment au début de la passion. Alors Jésus dévoile qui il est. Il dévoile qui il est. Alors nous savons, évidemment, lorsqu'on en arrive à ce stade de la lecture, naturellement, nous savons que Jésus est un prédicateur, sans doute avec un charisme exceptionnel. On aimerait bien, si on pouvait avoir Jésus en face de nous, pour saisir sa présence, la force de sa présence et de son charisme, évidemment. Voilà, il est prédicateur. Nous savons qu'il est guérisseur. Il a guéri des tas de gens, des aveugles, des lépreux, des paralysés, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont profité de sa présence pour pouvoir repartir dans la vie, évidemment. On sait aussi qu'il est anarchiste. Là, c'est une image dont on parle relativement peu. Jésus est vraiment anarchiste. Hein. Il a une relation au pouvoir qui est tout à fait particulière. Lui-même a renoncé au pouvoir. Prenez l'évangile de Matthieu avec les tentations qui sont là. C'est clair. Peut-être lui-même a-t-il été tenté par le pouvoir, mais il refuse ce pouvoir. Ça, c'est clair. Hein, et il dit, bon, bah, rendez à César, à un moment donné, ce qui lui appartient, bon, voilà. Hein, et donc, il y a une relation entre Jésus et le pouvoir qui montre que Jésus est sans doute anarchiste. Il est aussi amoral, Jésus. Je veux dire, il est profondément amoral. Jésus ne nous laisse pas une morale. Hein, il n'y a pas une conduite de vie. Il dit, aimez-vous les uns les autres, et puis on en tire les conséquences, point barre. Je veux dire, mais il ne nous dit pas comment faire. Je veux dire. Hein, et parce que c'est une parole de liberté, c'est une parole qui explose hein, finalement d'une certaine manière. Hein, je veux dire. Voilà, donc il n'y a pas de morale. Ça ne veut pas dire que Jésus soit immoral. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein, si Jésus n'est pas immoral, il est amoral. Je veux dire, c'est très différent. Je veux dire, effectivement. Et je pense que c'est important de le souligner parce que l'Église a tellement codifié de morales qui ont été des carcans pour des générations et des générations qu'il faut bien saisir cette dimension du message de Jésus. Jésus annonce la justice de Dieu, une justice qui touche tous les hommes, qui montre que chaque être humain a de la valeur auprès de Dieu, que personne n'est exclu finalement, ce qui n'exclut pas évidemment aussi la responsabilité, ça va de soi. Je veux dire, Jésus nous pose véritablement en adulte et il multiplie les signes de tout cela, de cette considération qu'il porte aux êtres humains qu'il rencontre au fil de son ministère. Mais là, à la fin de sa vie, il est à ce moment crucial où il n'a plus rien à cacher, il est en pleine liberté, hein, puisque bon, il va mourir, il le dit, enfin bon, on peut dire ce qu'il veut, il pensait ce qu'il veut à la limite, je veux dire, sans prendre le moins de risque, entre guillemets, si je puis dire, puisque l'aventure est bouclée, il sait qu'il est trahi. Et là, effectivement, il donne la clé de lecture, il donne vraiment le sens du message. Jésus va apparaître au final, alors qu'il est tout ce qu'on vient de dire, il va apparaître au final comme le serviteur souffrant d'Ésaïe, vous savez, hein, ce passage tout à fait extraordinaire de l'évangile d'Ésaïe. Mais enfin, on dit souvent que le livre du prophète Ésaïe est l'évangile de l'Ancien Testament, si vous voulez. Mais c'est ce passage extraordinaire où le serviteur souffrant, c'est lui qui est là, qui est comme la brebis qui va à l'abattoir, etc., qui est muette, et ainsi de suite. Il est le serviteur souffrant. Il apparaît comme cela, le serviteur qui est nu. Hein, et il quitte son manteau, et là aussi c'est très symbolique, hein, le manteau c'est symboliquement un attribut royal, voyez, et c'est pour ça qu'il y a les manteaux qui sont au moment des rameaux sur la route, vous savez, et puis c'est ce qui appartient véritablement en propre à l'individu. Et quelqu'un qui a des dettes, on peut tout lui prendre sauf son manteau, voilà, parce qu'il faut qu'il puisse passer la nuit à l'abri. Donc il ne faut pas dépouiller complètement quelqu'un, il faut lui laisser son manteau. Donc il y a des histoires de manteaux comme ça dans la Bible, hein. Vous avez Bartimée qui jette son manteau en l'air par exemple aussi, vous voyez, des choses qui reviennent. Jésus retire même son manteau, il est là, il exprime là quelque chose de très très fort, hein. Il exprime qu'il abdique, vraiment toute forme de pouvoir pour être un serviteur. Et non seulement un serviteur, mais le serviteur le plus humble possible. Parce que même, on hésitait à faire laver les pieds des gens qu'on accueillait par les esclaves. C'était vraiment les esclaves les plus humbles qui étaient chargés d'accueillir les gens en leur lavant les pieds. Et donc Jésus est vraiment au niveau le plus bas qu'on puisse imaginer de la société dans laquelle il vit. Il prend cette forme de serviteur, finalement. Et c'est ça qui est essentiel. Tout ce qu'il a fait, sa prédication, les guérisons, tout ce qu'il nous a laissé, c'est vraiment pour nous donner, pour nous servir véritablement, ceux qu'il a rencontrés dans son ministère et puis ceux qui lisent le témoignage de ce ministère à travers les évangiles, finalement. C'est la non-puissance, c'est le service des hommes pour les hommes, la non-puissance qui s'exprime dans ce texte clé extrêmement fort. C'est vraiment un acte fantastique qui est là. C'est un acte d'amour complet. Il y a une personne qui se donne complètement, alors qu'elle pourrait être tout, finalement, exprime là un acte d'amour indépassable. Et on se situe bien à la suite, finalement, de cette image du berger du psaume 23, hein, qui aime ses brebis, véritablement, qui les connaît, hein, ou comme dans la parabole, qui les appelle chacune par leur nom, pour les servir au final et pour les faire vivre. Alors, d'aucuns diront que c'est de la faiblesse, tout ça. Je veux dire, véritablement, comment suivre un Dieu qui se révèle comme cela, véritablement dans la faiblesse. Les dieux, il leur faut des grands temples, il leur faut des cérémonies compliquées, des liturgies compliquées, enfin bon, ainsi de suite. Vous savez que c'est une des grosses critiques de l'islam vis-à-vis du christianisme, ça. Hein. C'est-à-dire, comment on peut adorer quelqu'un qui va mourir sur une croix de manière infamante, etc., dans la faiblesse la plus totale. C'est pas un dieu, ça. Donc ça vaut pas le coup d'entrer dans ce type de démarche. Voilà. Et pourtant, là s'exprime dans ce geste de Jésus une force. C'est la force du service et la grandeur des serviteurs et du témoignage. Quels sont les grands de l'Église au XXe siècle? Il s'appelle Luther King, Sœur Teresa, Schweitzer, l'abbé Pierre. Il s'appelle Monseigneur Romero. C'est lui qui s'est fait flinguer en pleine messe au Honduras alors qu'il défendait les pauvres. Voyez, donc il y a un commando qui est arrivé. Il y a quand même dans l'Église des gens assez fabuleux, assez extraordinaires quand même. Mais les autres, on les oublie. Si je vous demande quel est le nom du président de l'Église réformée de France dans les années 50, vous serez bien embêté pour me le sortir. Enfin, peut-être que vous le savez, je veux dire, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et si je vous dis quel était le pape en 1925, tout le monde s'en fout complètement, je veux dire, à juste titre. Mais Sœur Teresa, la petite catholique là, en Inde, celle-là, on ne l'a pas oubliée quand même. Ouais. On ne l'oubliera pas, de toute manière. Pas plus qu'on a oublié, pas plus qu'on n'oublie pas François d'Assise ou Saint-Vincent de Paul, par exemple. Enfin, voilà. Voilà. Le geste de Jésus, il est prophétique. Il est vraiment prophétique et il a quelque chose d'assez formidable. Il entraîne à sa suite des gens qui ont la force d'aller jusqu'au bout de la démarche du service. Des gens extraordinaires, que l'histoire ne peut pas effacer, finalement, et qui pourtant posent tellement de problèmes. Parlez de la réaction de l'islam, parce qu'elle m'a été dite, hein. Mais regardez Pierre qui, comment toi me laver les pieds, mais enfin bon, on est vraiment dans le surréalisme, quoi, en gros, c'est ce que dit Pierre, c'est folie, Pierre ne comprend pas le geste de Jésus, tellement de mal, je veux dire, mais c'est vrai que on est comme ça. On est comme Pierre. On est attiré par ce qui est claquant, par la force. C'est comme ça, c'est terrible. Regardez, on a canonisé des papes et on a oublié Teresa. Mince. Vous rendez compte un peu la gaffe. Je veux dire, c'est terrible. Je veux dire. Et on admire nos dogmaticiens chez les protestants parce que tout le monde en prend, je veux dire. Et on passe sous silence Nick et Rochette. Vous savez, le vieux Nick. Vous savez ce qu'il faisait, Nick? Eh bien, au début du XXe siècle, il allait de taudis en taudis, dans la banlieue de Lille et compagnie, pour remonter les missions populaires évangéliques, des choses comme ça. Des types extraordinaires, je veux dire. Et Rochette, qui a fondé la Croix-Bleue, à l'époque où l'absinthe, quand même, faisait des morts, je veux dire. Les types qui. Les gens mouraient de l'alcoolisme dans les milieux populaires. Et les autres aussi, mais ça, on en parle moins, l'alcoolisme mondain. Mais il y a quand même des gens extraordinaires qui sont là. Et pourtant, il ne faut pas les oublier. Ce sont eux qui font la grandeur de l'Église, beaucoup plus que ceux qui sont dans les ors et dans les chefferies, ou quand je ne sais pas, ou dans la puissance. Mais on est omnubilé par cela. Chaque fois que j'écoute la radio tous les matins, on nous livre toujours quelques chiffres, de sondages, de statistiques, de PNB, de trucs et de machins, de puissance militaire, que sais-je encore. On est omnubilé par tout ça. Voilà. Tel est l'humain. Et Pierre ne comprend pas le geste de Jésus. Toi, me laver les pieds. Eh oui, c'est lui qui est comme nous, et c'est Jésus qui est dans la vérité, effectivement. Alors c'est vrai que Pierre, après, deviendra l'apôtre que l'on connaît, évidemment. Va de soi. Mais quand même, l'éternel humain est là face à Jésus qui est au genou de cet éternel humain. Et cet éternel humain reçoit Jésus. Jésus qui est de toute éternité l'éternel. L'éternel qui est le berger d'Israël. L'éternel qui est le berger. L'éternel est mon berger. Le Seigneur est mon berger et je ne manque de rien. Et ce berger, il est à nos genoux. Il est à nos genoux, pas aux genoux de Pierre, mais il est vraiment à nos genoux pour nous laver les pieds. Le Maître est là pour nous servir et pour mieux nous guider et pour mieux nous faire vivre. Amen.